à ce panorama sur, sur la peinture de Murillo et son, son rapport au texte, ces chroniques de Marguerite Vaughan. Tout à l'heure, si on a un peu de temps, je vous présenterai quelques-unes des éditions que nous avons ici de Marguerite Vaughan. Et il y a peut-être sans doute des questions, il y a certainement des questions à poser à Odile, puisqu'on a un petit peu de temps là. Peut-être demander tout de suite, peut-être, comment est-ce qu'on en sait un peu plus sur, sur comment ça se passait concrètement, le rapport du peintre avec le texte. Est-ce que le texte était lu au peintre? Est-ce que le peintre lisait le texte? Est-ce qu'on sait un peu ces choses?
Alors, pour cet ensemble, on n'a pas du tout de contrat. On a des contrats contemporains pour son Baran ou même pour lui, où il y a des descriptions extrêmement précises et contraignantes. Même le commanditaire dit au peintre, si le tableau ne plaît pas au père supérieur, il faudra changer. On voit mal Picasso changeant un tableau parce qu'il ne plaisait pas. À l'époque, c'était des grands tableaux quand même. Ce sont non seulement des tableaux de 4 mètres 50, mais les autres sont quand même de grands tableaux. Donc ils avaient des consignes très précises et en général, ils s'installaient carrément dans le couvent pendant la peinture, et je pense qu'ils étaient surveillés. À la fois les commanditaires lui offraient de la matière première, les peintures et les matériaux, enfin pour pouvoir réaliser leur peinture, et je crois qu'ils étaient surveillés de très très près quand on. Mais malheureusement pour cet ensemble, on a d'ailleurs, et pour l'ensemble du couvent de Saint-François, qui a été un couvent très important à l'époque de Mérillon, on pense qu'il y avait une centaine de moines, et ils étaient très très riches aussi puisqu'ils avaient beaucoup de chapelles attenantes qui appartenaient à des grands nobles qui donnaient de l'argent. Cet argent devait être distribué aux pauvres, mais leur valait quand même beaucoup de critiques. Et c'est pour ça qu'ils se défendent, d'autant plus que malgré les ordres de Philippe II qui renvoient les conventuels, les Alcantarins s'installent assez vite, mais hors les murs, quand même, plus modestement, à la fin du XVIe siècle, et les Capucins vers 1620. Donc c'était vraiment là les ordres vraiment pauvres qui suivaient vraiment François, et donc il fallait qu'ils se défendent un peu, de montrer que malgré tout leur argent, ils étaient quand même les dignes continuateurs de l'observance franciscaine. Alors, assez curieusement, ça a été un grand dessinateur, Murillo. Il y a eu des expositions de dessin au Louvre absolument magnifiques. Il a même créé une académie de dessin, je crois vers 1670, si ma mémoire est bonne, dont il a été le directeur. On a quelques dessins, mais très très peu pour cette première série. Il est encore très jeune, il n'est pas connu. C'est sa première. Il a commencé ses travaux à Cadix et non pas à Séville. Et donc, voilà, on a quelques petites esquisses, mais pas grand-chose sur ce. Mais il dessinait sûrement. Contrairement à Sourbaran, qui dessinait sûrement, mais qui n'avait pas. Il ne se rendait pas compte que le dessin pouvait avoir une certaine valeur. Murillo est un des premiers peintres espagnols, avec Cano, à se rendre compte que le dessin en soi c'est très beau, qu'il faut le garder. Parce que sinon les dessins servaient dans l'atelier, resservaient pour être copiés, etc. et n'étaient pas conservés. Lui, il fait vraiment des dessins qui sont des œuvres d'art et qui sont achetées. Et notamment, il avait dans sa clientèle beaucoup de marchands flamands. Vous savez que c'est le port qui va vers l'Amérique. Séville, c'est le grand port qui va vers les Flamands, qui ramène des épices, de l'or, etc. Et les marchands hollandais et flamands étaient très nombreux à Séville et lui commandaient des dessins, des tableaux, notamment des portraits et des enfants. Les portraits des enfants, ce qui fait que tous ces tableaux d'enfants qu'on aime tellement chez Murillo, il n'y en a pas un seul en Espagne, parce qu'ils sont tous partis très très tôt, commandités par des commanditeurs étrangers hors de Séville, pas non espagnols.
J'ai l'impression qu'il existe une petite esquisse du religieux en extase dans la cuisine des anges. avoir vu, non, je me trompe ?
Non, le Religion Excès que je montrais dans le catalogue, c'est une gravure qui a servi de modèle. C'est une gravure qui est tirée d'une vie de Saint-Ignace, je crois. On voit Religion Excès et il l'a utilisé. Il y a quelques esquisses, mais il n'y a pas vraiment de plans comme par exemple Raphaël qui faisait des grands tableaux, puis des petits tableaux, des dessins, etc. Non, mais c'est vraiment le premier qui se rend compte de l'importance du dessin en tant qu'œuvre d'art, et non pas uniquement en tant que support d'une peinture qui va être utilisée par l'atelier.
Et puis, ce qui est frappant, c'est que c'est à la fois une peinture anecdotique, c'est-à-dire qui raconte, par exemple, les petites histoires des frères et tout, et une peinture mystique.
Absolument. Oui.
Et on a les deux extrêmes, finalement, de la peinture.
Celle qui prend la parole, c'est notre prochaine conférencière, donc au mois de novembre, à Marie Baron, qui viendra nous parler de Frère Élie. Ça, c'est pendant un peu plus d'un mois.
Je suis amusée à écouter ce que vous disiez de Frère Juniper, parce que je connais une autre anecdote qui est très amusante, c'est quand il a, dans sa générosité, comme ça, il a donné une cloche de l'église qui était en train d'être construite, et évidemment il s'est fait gronder.
Il se faisait gronder souvent, oui.
Et après, quand il était tellement grondé fort que le père qui l'a grondé avait perdu la voix complètement. Et alors après, le soir, il lui a apporté une soupe chaude au lait en lui disant: vous devriez boire cette soupe pour vous réconforter. Alors le père le met à la porte, évidemment, et puis il s'assoit devant sa porte. Et il dit: non, je ne partirai pas tant qu'on n'aurait pas bu cette soupe. Alors, pour se débarrasser de lui, le père a bu la soupe avec lui. C'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup.
Mais il agaçait beaucoup les autres, et c'est Saint François qui le défendait, qui disait: j'aimerais bien avoir une forêt de ces junipères, parce qu'il appréciait vraiment à la fois cette générosité, cette gaieté, enfin ce sens de l'humour aussi, parce que dépouillez-moi de mon costume, je dirais rien.
C'est trop précieux. Non, mais c'est ça qui m'amuse beaucoup. Ce que vous avez bien montré dans votre conférence, c'est qu'on va de l'anecdote la plus comique, la plus triviale, finalement. Ah,
pour montrer une grande vertu.
Élévation mystique.
Absolument.
C'est magnifique, cette façon de gravir, au fond, tous les gens.
Frère Luc.
Simplement, c'est une information pour compléter la collection. Sur Internet, il y a un très beau diapo de l'exposition de Séville sur les Capucins.
Oui.
À peu près une vingtaine de tableaux. Ils sont très bien présentés. C'est encore actuellement sur Internet. Il suffit de taper sur Google.
Oui, Murillo Séville, vous avez. Séville, c'est fou ce qu'il y a eu cette année. Parce que c'est un peintre sévillant. C'est la gloire de Séville. Et donc, il y a depuis même la fin de l'année dernière et toute cette année, il y a eu des colloques, des expositions partout, dans la cathédrale, à l'Ayuntamiento, un peu partout, il y a des expositions sur différents épisodes. Il y a eu les Capucins, effectivement, au moment où il y avait le colloque international, et à la fin de l'année, il y a une grande exposition monographique au Musée des Beaux-Arts de Séville. Et assez curieusement, comme toujours, c'est absolument pas reproduit en France, on n'en parle pas. C'est quand même une très belle peinture, je la défends depuis des années, et je ne comprends pas qu'il y ait cette espèce d'ignorance et de mépris, finalement, pour la peinture espagnole. Sauf chez vous, bien sûr, mon cher Pierre.
Alors, à propos des Capucins, on sait véritablement qu'il a vécu avec les frères pendant un certain temps.
Oui.
Il est de perdre sa femme,
voilà.
Et il vient avec ses enfants et ses ouvriers, et il vit avec les frères.
Il vit avec les frères. Et d'ailleurs, il meurt chez les Capucins, presque, puisque en 1680, il est appelé à Cadix pour peindre, cette fois-ci, le couvent des Capucins de Cadix. Et il tombe dans l'échafaudage et il meurt il est ramené à Séville, il ne meurt pas à Cadix, mais il meurt en tombant dans l'échafaudage, en peignant pour nos chers Capucins.
Alors ça a donné lieu à des tas de tableaux.
Voilà, et les très beaux tableaux, ceux-là, sont conservés au musée de Cadix.
Ouais. Non, mais je veux dire, la mort, le fait qu'il tombe de l'échafaudage,
ça a donné lieu à des tableaux au XIXe siècle, voilà. Vous savez, voilà, tableaux sur... On aimait bien raconter ces anecdotes des peintres pieux, etc.
Juste un petit mot à propos des prénoms. Vous avez parlé de Dieg.
Oui.
Nous, en français, on parle de Didas. Hein.
De Didas, c'est
Didas de Alcalá.
D'Alcalá.
Voilà, c'est Didas de Alcalá. D'autres questions ? Oui, allez-y.
Vous avez dit que
Oui.
Je suppose que c'était en Espagne. Pas dans le monde entier.
Comment pas dans le monde entier? Il était canonisé à Rome, c'était dans le monde entier.
Oui, non, mais elle demande si c'est le seul saint espagnol.
Non, je crois c'est que... le seul saint.
Voilà. Je crois qu'il y a eu un changement dans les règles de canonisation.
Oui, et puis c'était quand même le siècle de Luther, c'était le siècle du Concile de Trente, c'était celle des guerres de religion. Et vraiment, c'était par des vertus extraordinaires que le pape l'a canonisé, parce qu'il avait d'autres soucis en tête à ce moment-là, pendant tout au long du XVIe siècle.
C'était un pape franciscain.
Voilà.
C'était un pape franciscain. Oui, en général, ce sont les papes franciscains qui canonisent les franciscains. Je ne voudrais pas. Mais c'est arrivé souvent. Et les dominicains aussi sont canonisés par des papes dominicains. C'est quand même... Ça arrive assez souvent.
C'est bien le seul saint du XVIe siècle.
C'est le seul saint du XVIe siècle, absolument.
D'autres questions encore? Allez-y, oui.
J'aurais une question par rapport, je pense avoir une partie de la réponse. Vous avez dit que c'était un peintre qui était issu d'un milieu pauvre, en fait, au départ, quand il était jeune.
Non. Non, il est d'une famille, son père est chirurgien barbier, sa mère est d'une famille d'artisans assez riches, il rentre dans l'atelier d'un cousin, dans un atelier qui marche bien. Non, c'est pas ni d'aristocratie, ni de la bourgeoisie, mais c'est une famille tout à fait. Il n'est pas pauvre, d'ailleurs, à 15 ans, il essaye de partir en Amérique, il faut avoir les moyens pour partir en Amérique, puis finalement il y renonce. Mais non, il n'est pas pauvre, il suit des études normales. Vous savez, il y a une espèce de légende dorée des peintres, comme ça. Ils apprennent à dessiner, quelqu'un les repère, ils dessinent sur un caillou, je sais pas quoi. C'est la légende dorée, tout ça. Hein. C'est pas.
Ma question, c'était par rapport aux enfants. Je m'interrogeais pourquoi Bouzido s'est intéressé autant pour peindre des enfants, en fait. Et je me disais que quand on est peintre et qu'on cherche des modèles, y avait beaucoup d'enfants orphelins dans les rues et pauvres, et c'était des modèles qui n'étaient pas très chers.
Non, c'est pas pour ça. En fait, c'est à partir de... À partir de la moitié du siècle, donc lui il commence sa carrière, vous avez vu en 45, 50, il y a une peste épouvantable en 49 qui fait mourir la moitié de la ville. Il y a beaucoup de la moitié ou le tiers selon les historiens. Et donc il y a beaucoup d'enfants pauvres, beaucoup d'enfants orphelins, et il aime l'enfance. On le voit comme tu vois même autour des Immaculés, les petits angelots. Il aime, il a des enfants, il aime l'enfance. Il peint ça et il a pas du tout un regard misérabiliste. Hein, même le petit garçon de Rio qu'on a vu au début, qui enlève ses poux, il est pas triste. Hein. Ce sont pas des enfants qui pleurent ou qui sont sur des enfants joyeux, mais qui vivent comme ça, en haillons, ils vivent dans la ville. Et c'est vrai que c'était les religieux de l'époque essayaient de les recueillir, de les élever, etc. Mais eux, ils vivaient très bien comme ça. Et c'est vrai qu'ils avaient des modèles. Mais à l'époque, on payait pas ces modèles. Hein. Les modèles, sauf des commanditaires de portraits, et il en a fait, qui payent très bien leurs portraits. Mais ils payent. Et pour les tableaux religieux, souvent pour les moines, il prend les moines du couvent comme modèle. Je ne pense pas que les moines se fassent payer. Hein. Très souvent, on n'est pas du tout dans la même mentalité que la peinture du 19e. Hein.
Encore, oui, voilà, là-bas, très bien.
Comment les œuvres étaient disposées autour du cloître et quelle était la logique de cette disposition?
Non, pas vraiment. On a essayé beaucoup de reconstitutions. C'est assez difficile puisqu'il n'existe rien, pas de contrat, pas de couvent, puisque le couvent a été détruit, donc on a juste les descriptions anciennes, et dans les descriptions anciennes qui sont faites en général par Ponce en 1780, par Séane en 1800, et malheureusement ils ne donnent pas l'ordre des tableaux, ils remarquent certaines qualités de tableaux ou la rareté des sujets, mais ils ne disent pas comment étaient disposés les tableaux. Alors, est-ce que tous les franciscains, compagnons de Saint-François, étaient d'un côté et avaient en face, en espèce de parallèle, les franciscains plus contemporains? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Encore une question?
Oui,
où se trouve actuellement le tableau de la mort de Sainte-Claire?
Elle est au musée de Dresde.
Je ne connaissais pas, c'est très beau.
C'est un tableau somptueux. Et vraiment, je trouve que par rapport au premier tableau, on voit Saint-François, c'est encore un peu raide, etc. En 2 ans, il est devenu vraiment un très très grand peintre. C'est lumineux, il y a l'influence flamande qui joue hein, à ce moment-là. Et puis la mode aussi, parce que ces tableaux ténébristes de la première moitié du siècle, ils correspondent à une religion assez sévère, qui est la réforme catholique. Et là, tout d'un coup, ça y est, les catholiques, en tous les cas en Espagne, ont gagné. Et donc, on peut montrer, au contraire, la joie, la beauté. Ces saintes vierges, elles sont sublimes, quoi. Ce sont de ravissantes jeunes filles. Et d'ailleurs, sa fille, qui est rentrée chez les dominicaines, et qui lui a servi de modèle pour représenter... la première sainte d'Amérique, sainte Rose de Lima, était très jolie, d'après le tableau. C'était une très jolie vierge aussi.
Il y a des tableaux de Murillo dans toute l'Europe, finalement.
Oui, il y a justement, à cause de ses enfants, ils sont un peu dans les musées, à cause des portraits, des tableaux religieux, après, sont venus... comme beaucoup de tableaux religieux espagnols après l'invasion française, parce que tous les couvents ont été vidés à ce moment-là de leurs œuvres, et malheureusement pour les Espagnols, le Cern Bermudez avait décrit très précisément ce qu'il y avait dans chaque couvent. Donc que ce soit Favier ou Soult, ils arrivaient et disaient dans tel couvent il y a tel tableau, il y a tel tableau, il y a tel tableau, on va les mettre à la... Et alors ils avaient une très bonne excuse, ils les réunissaient à l'Alcazar de Séville. Il y a eu 999 tableaux réunis qui étaient soi-disant pour que Joseph Ier, le roi d'Espagne, le frère de Napoléon, puisse choisir et faire son Louvre à lui à Madrid. Et puis en fait, sont partis. Joseph a beau réclamer ses tableaux, il y en a certains qui sont arrivés, mais les autres sont repartis en France avec les chariots des maréchaux français. Je sais d'avoir lu aux archives nationales où je recherchais autre chose. On a bien vu passer à la frontière, ils vont chercher. On a bien vu passer les chariots. Il y a beaucoup de tableaux dans les chariots des maréchaux français. Donc c'est parti en flopée vers l'Europe. Alors certains les ont gardés, assez peu. La plupart de ces grandes collections, en tous les cas celles de Soult et celles de Louis-Philippe, ont été vendues au milieu du siècle et se sont réparties dans les musées du monde entier, beaucoup dans des châteaux anglais, et ce sont ceux qui sont maintenant dans les musées américains. Enfin, il en reste dans les châteaux anglais, consolons-nous, mais enfin, beaucoup sont partis en Amérique à ce moment-là.
Et alors donc au Louvre, il y a surtout la cuisine des anges.
Voilà, la cuisine des anges, parce que Soult a négocié aussi ses impôts, des choses comme ça, avec certains des tableaux qu'il avait. Il a négocié avec le Louvre, et il a donc laissé quelques tableaux au Louvre.
Question là-bas. Plus fort, plus fort.
Ah, ça a été le peintre le plus célèbre du 19e siècle. C'est pour ça que je vous ai montré cet Immaculé qui a été le seul tableau. Le Louvre avait beaucoup d'argent pour acheter des tableaux dans cette vente où il y avait beaucoup de tableaux espagnols. Et ils n'ont acheté que celui-là parce qu'il a coûté tellement cher que tout l'argent a été consacré. C'était le peintre le plus célèbre, le peintre espagnol le plus célèbre au 19e, à partir non seulement du retour des officiers de Napoléon, mais surtout de la galerie espagnole de Louis-Philippe où les Français peuvent apprécier à ce moment-là la peinture espagnole.
Ça reviendra.
Oui, j'espère. Enfin, j'aurais fait ce que j'ai pu pendant de très longues années, sans beaucoup de succès, mais quand même.
Alors, je vous signale qu'on vous a montré là tout à l'heure, vous pourrez la regarder tout à l'heure, un certain nombre d'éditions. C'est qu'un petit échantillon des éditions des chroniques de Marc de Lisbonne que nous avons, qui viennent soit du fonds des Capucins, soit du fonds déposé ici par les franciscains. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça se voyait, vous n'avez peut-être pas bien vu, la première photo d'un frontispice des chroniques traduit en français, il était écrit en bas, à la main, manuscrit, à l'usage des pères Capucins. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que au début du XVIIe siècle, ces chroniques servent à tout le monde, y compris aux Capucins.
Hein.
Et finalement, Marc de Lisbonne, avec toutes ses traductions... souvent d'ailleurs, on vous explique que les traductions en français sont faites à partir de l'italien, qui est lui-même une traduction de l'espagnol, qui est lui-même une traduction
voilà,
du portugais.
Le frontispice que j'ai montré,
c'est l'espagnol, à l'italien et au français. Voilà. Et donc, il y a aussi des traductions en allemand. Et chaque fois que vous regardez un inventaire de couvents anciens au XVIIe, XVIIIe siècle, vous avez toujours ces chroniques de Marc de Lisbonne. Alors, évidemment, après, on aura un autre instrument qui sont les Annales Minorum de Luc Vallini. Mais les Annales Minorum, elles ne paraissent qu'en 1625. Donc, avant 1625, quand on veut avoir une référence un peu historique sur l'histoire de l'ordre, on va chez Marc de Lisbonne.
C'est quelle date, Marc de Lisbonne ?
Alors, Marc de Lisbonne, vous avez le premier volume en portugais qui doit dater des années 1560,
Oui, 1556 et 1560. Mais c'est traduit la même année en espagnol. Hein.
Voilà. 1557 pour le premier tome. Le deuxième tome paraît 62. En 1562.
Voilà.
Avec chaque fois des éditions. Mmh. Et le tome 3 en 1570.
70, c'est ce que j'avais vu.
Et donc, traduction en espagnol, en italien. Et alors, il est toujours très intéressant de regarder toutes les éditions. Mmh. Par exemple, vous apercevez que certaines des éditions qui paraissent en français comportent des petits ajouts un peu curieux. Mmh. Par exemple, regardez le tome 4. Donc, parce que le troisième volume a été divisé en deux. Ben, quand vous regardez le tome 4, vous regardez, à la fin, vous voyez l'histoire du premier récollet français, et vous voyez aussi l'histoire des premières capucines, l'implantation des premières capucines à Paris. Tout ça, c'est des petites choses qui ont été rajoutées, parce qu'on s'est dit, pour intéresser les Français, leur donner des choses qu'ils pourront lire. Et donc, toutes ces éditions, c'est absolument à regarder avec intérêt. Alors, la grande chance que nous avons ici, c'est que nous allons les confronter les unes aux autres. Nous sommes certainement en France, l'endroit où il y a le plus d'éditions de Marc de Lisbonne. D'ailleurs, dans toutes les langues, hein, on a des éditions espagnoles, on a des éditions italiennes et on a des éditions françaises. Voilà, ben il ne reste plus qu'à vous remercier. Vous étiez vraiment nombreux ce soir. Alors, je voudrais remercier Robert Tetrel, qui est un ami, hein, qui vient pour la deux ou troisième fois, et qui nous a apporté à la bibliothèque un ouvrage sur Notre-Dame des Anges. Notre-Dame des Anges, vous savez, c'est ce couvent de Récollet qui se trouve à l'Aberbrac, donc au nord de la Bretagne. Et que Robert Tetrel, depuis des années et des années, eh bien, reconstruit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que moi, j'ai connu il y a quelques années cette église des Récollets de la Verbraque sans toiture. Mais si j'ai bien compris, maintenant, la toiture, Robert Tetrel, je crois, est là, hein, la toiture a été rétablie. Et là, c'est un ouvrage de gouache, hein, de peinture.
D'aquarelle,
voilà. Qui paraît sur Notre-Dame des Anges à la Verbraque. Donc c'est un lieu qui est en train de devenir un lieu de culture. Vous avez toujours un grand projet pour la Verbraque ?
Alors avec les amis de Notre-Dame des Anges, le projet est d'ouvrir le centre culturel. Alors il a déjà fonctionné lorsque il y avait pas de toiture et que les travaux de carrière permettaient de rentrer. Là c'est fermé pour l'instant parce que il y a encore des échafaudages, on est en train de d'aménager les intérieurs. Donc il y a une campagne importante pour ce qu'on appelle des pots acoustiques. Il y a des objets qui viennent sonoriser. Donc, ce serait une longue histoire à raconter.
Je vous tiens que sur Internet, vous avez un petit film qui circule sur la question.
Qui ont été restaurés. Et c'est une première. C'est la première fois que... Là, en ce moment, il y a les trous qui sont en train d'apparaître et on commence à tirer les fils pour la lumière. Normalement, si toutes les choses vont bien, si le ciel nous conduit, le 2 août 2020,
La fête de Notre-Dame des Anges tombe un dimanche. Et donc l'association a décidé de fêter cette date. Et vous êtes tous les bienvenus si vous êtes dans.
Merci à tous. Alors je rappelle que notre prochain rendez-vous, vous avez tous une petite invitation. Partez avec votre petite invitation le 15 novembre avec Anne-Marie Baron. Nous évoquerons alors là la figure de Frère Élie et la figure de son biographe qui est le grand-oncle d'Anne-Marie Baron. Sauter, c'est son surnom, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça, qui a eu lui-même une vie assez extraordinaire que nous racontera Anne-Marie Baron. Dernière chose pour vous dire que nous avons une association des amis de la bibliothèque. On peut toujours renouveler son adhésion parce que c'est ce qui nous permet justement de financer un peu ces conférences. Et on a vu tout à l'heure un tableau qui s'appelle « La cuisine des anges ». Eh bien, nous aussi, en particulier en ce jour où on fête les anges gardiens, nous avons nos anges qui nous ont préparé des petites choses à manger. Vous verrez, c'était absolument excellent. Ils ont pu avoir un temps de méditation, d'extase, et puis en même temps, leur préparer des cakes, en particulier le fameux cake de Cécile. Bonne soirée à tous. Merci.